Une autre édition d'Avec Podcast avec Claude Boucher.
Salut Marc-André.
Salut Claude. La classique hivernale, c'est dans très peu de temps. Mine de rien, là, Dame Nature a décidé de se mettre de notre bord et du bord de l'organisation des quatre, un peu.
Oui, vendredi et samedi, on devrait avoir de très, très belles journées, très belles soirées dans le cas de vendredi pour la classique hivernale opposant les cataractes à l'Océanique et les remparts de Québec. Marc-André, je te le dis d'avance, mes bottes de skidoo sont prêtes, mes culottes de neige sont prêtes, les grosses mitaines sont prêtes. Ça va être tout un week-end à Saint-Tite.
Est-ce qu'on a un casque d'aviateur russe, là, tu sais, gros casse de poils.
Je l'avais essayé il y a 4 ans.
Ouais.
Puis malheureusement, avec nos écouteurs, ça ne fonctionne
idéal, hein?
Pas très, très bien. Le mieux, c'est une tuque qui couvre bien la tête, mais qui ne prend pas trop de place avec les écouteurs par-dessus.
Okay.
Mais je te le dis tout de suite, Marc-André, ne t'attends pas à ce que je sois coquet en fin de semaine. On va laisser faire le look pour le confort et ne pas geler du côté de Saint-Tite.
C'est bien correct. Puis c'est pas pire quand même. Je regardais la température qui est annoncée. C'est moins froid que lors de la précédente édition, assurément.
Oui, parce qu'on se souviendra, en janvier 2015, dans les jours précédents, la classique, il avait fait des moins 30 la nuit.
Ouais.
Et si je me rappelle bien, le soir du match contre les Tigres de Victoriaville et le lendemain contre les Remparts, ça tournait autour de moins 10, moins 15. C'était quand même assez confortable et ça avait donné des moments tout à fait magiques. Puis j'espère qu'en fin de semaine, ça va être la même chose.
Un classique hivernal qui a permis aux Cats notamment d'aller pratiquer à Saint-Tite cette semaine. Ça doit être le fun quand même quand tu évolues dans un niveau de hockey comme celui-là, un niveau élite. C'est un peu un retour à la base en quelque part parce qu'on a pas mal tous commencé sur l'étang à côté de chez nous, la patinoire du quartier.
Oui, puis dans le cas des joueurs des Cataractes, je pense que peut-être pour certains qui l'ont peut-être vécu au niveau midget 3A, ce sera pour tous les joueurs une première expérience en matière de match extérieur à un tel niveau. C'est Charles Beaudoin, l'année dernière, jouait pour les Cantonniers de Magog, mais n'avait pas participé à la classique hivernale à Drummondville parce qu'il était suspendu pour le match des Cantonniers qui était disputé du côté de Drummondville. Donc, lui aussi, ce sera sa première expérience. Puis, veut, veut pas. Même si les joueurs avaient joué la saison dernière à Drummondville, le site des grandes estrades du Festival Western, c'est pas la même chose. Ça ajoute au cachet avec un site qui est fermé, les estrades qui sont couvertes par un toit. C'est comme s'il y avait eu un aréna construit avec la patinoire au centre, bien sûr, puis qu'on avait enlevé le toit qui couvrait la patinoire. C'est un site qui est absolument extraordinaire, alors on va s'y donner rendez-vous en fin de semaine.
Et pour les matchs en tant que tels, puisqu'on parle de classique hivernal, on s'attend à un lourd défi, évidemment, pour vendredi et peut-être quelque chose d'un peu plus abordable, disons, pour le lendemain avec les Remparts.
Et ce sont des matchs d'une importance capitale pour les Cataractes. On le sait, les quatre sont toujours impliqués dans une course pour le dernier rang donnant accès aux séries, ce qui fait qu'au-delà de l'événement, il y a des points à aller chercher pour les Cataractes. Tu l'as dit, contre l'Océanique de Rimouski, ce sera probablement le match le plus difficile des deux. Contre les Remparts, c'est tout à fait prenable en fin de semaine, sauf que j'ai comme l'impression que les joueurs des Cataractes, ça va leur donner du gaz dans le réservoir, le fait de jouer cette classique hivernale. Écoute, ils vont vouloir en mettre plein la vue à leurs partisans,
ben oui.
C'est sûr et certain. Souhaitons que ça va nous donner de très bons matchs. Ça devrait nous donner de très bons matchs, puis en partant à la base, contre l'Océanique de Rimouski, les gens vont pouvoir voir en plein air Alexis Lafrenière et l'excellente machine de l'Océanique de Rimouski pour un prix qui est quand même pas si pire. Tu sais, l'événement en tant que tel, c'est à ne pas rater. Mais il reste que pour les Cataractes, effectivement, il faut se concentrer sur les points à aller chercher au cours de la fin de semaine. Je pense que contre Québec, c'est tout à fait prenable. Il reste que les Cataractes vont devoir justement se concentrer sur la tâche qui est à accomplir.
Et on suppose que chacun des gardiens des quatre s'obtiendra un départ?
C'est très probable. Écoute, je ne m'avance pas, mais d'habitude, quand tu as deux matchs en 48 heures, surtout que dans ce cas-ci, ce seront deux matchs en moins de 24 heures, puisque le match de demain, de vendredi, est à 19h30, puis celui de samedi est à 15h, donc sera terminé avant 19h30. Alors, c'est deux matchs en moins de 24 heures. Alors, sûrement qu'on va donner un départ à chacun des gardiens de but. Mais écoute, ça nous permet de revenir sur les performances des dernières semaines de Justin Blanchette, qui, enfin, s'avère comme le gardien de but que les Cataractes sont allés chercher chez le Drakkar de Bécomo. Si tu regardes chacun de ces matchs individuels, il a quand même donné beaucoup de buts.
Ouais.
Okay? Mais il reste que si ce n'est pas de sa performance contre les Huskies d'Orwin-Randa,
50 quelques
dans une défaite de 4-0, il n'y a pas de match. Contre Saint-John et également la semaine dernière à domicile contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. S'il ne fait pas le travail, ben c'est peut-être des défaites pour les joueurs des Cataractes. Bref, Blanchette a bien fait, puis Coulombe continue sur sa lancée. Alors, on devrait voir les deux gardiens en fin de semaine.
Justement, parlons-en de la dernière semaine des Cats. Tu l'as abordé brièvement, mais quand même, une semaine sur laquelle il y a quand même beaucoup de positifs à tirer.
Bien, écoute, ça commence avec la défaite de 3-2 à Rimouski la semaine dernière. Oui, les Cataractes ont chauffé les faufounes de l'Océanique au Colisée financière Sun Life, puis les Cataractes auraient très bien pu sortir de là avec les deux points de la victoire. Par la suite, à domicile contre les Sea Dogs de Saint-Jean, là, on a évité la catastrophe parce que les Cataractes avaient pris les devants 4-0.
Oui, dans le match qui a été interrompu, là.
Oui, dans le match avec l'alarme d'incendie. Les Cataractes menaient 4-0 après la première période, mais c'est un faux 4-0 parce que les Sea Dogs, quand on compte les chances de marquer, avaient dominé la première période, mais pas d'opportunisme du côté des Sea Dogs, tandis que du côté des Cataractes, tout rentrait dans le filet adverse. Par contre, ils ont failli échapper leur avance. Ils l'ont échappé leur avance de 4 buts en troisième période avant de se sauver avec la victoire en tir de barrage. Bon, ils ont pris seulement qu'un point sur les Sea Dogs, ouais. Mais par contre, dès le lendemain contre l'Armada, solide performance. Tu sais, si c'est pas de l'indiscipline des Cataractes en fin de troisième période où les Sea Dogs ont marqué 2-3 buts assez rapides, tu sais, c'est 8-3 Cataractes en troisième période, ce qu'on n'a jamais vu depuis le début de la saison. Alors oui, il y a du positif à tirer de la dernière semaine des Cataractes, d'autant plus que les Sea Dogs, eux, ont subi 3 défaites en autant de matchs dans leur voyage au Québec. Ce qui fait que la situation des Cataractes est un petit peu plus confortable maintenant qu'elle ne l'était il y a de cela une semaine. C'est 4 points d'avance sur les Sea Dogs de Saint-Jean. Par contre, la défaite à Gatineau, Daniel Renault l'a dit, ils ont inventé une nouvelle façon de perdre et les Cataractes auraient pas à profiter pour au moins se rapprocher des Foreurs de Val-d'Or, ce qui n'a pas été le cas.
OK. Là, on est un mois pile, jour pour jour, pratiquement après la période des transactions. Donc, disons que l'échantillon pour évaluer les nouveaux venus est quand même plus intéressant. Est-ce qu'il y en a un que tu remarques davantage depuis justement qu'il est arrivé avec les Cats?
Écoute, moi, honnêtement, j'aime bien défensivement à la défensive ce qu'apporte Marc-Antoine Pépin.
Oui.
Jeune joueur d'avenir avec un physique très intéressant. C'est drôle, c'est un peu, j'ai comme l'impression de voir un clone de Simon Benoit, plus jeune évidemment. Mm-hmm. Simon Benoit, lorsqu'il avait 17 ans, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec Marc-Antoine Pépin.
Il me semble un peu plus offensif par contre.
Oui.
En tout cas, meilleur en possession de rondelle, à mon sens, au même âge.
Oui, un petit peu plus offensif quand même que Simon Benoit ne l'était, c'est vrai, c'est un bon point. Puis du côté des attaquants, Michael Robidoux, je me questionnais, moi, pourquoi on était allé chercher celui qui porte maintenant le numéro 10 des Cataractes. Bien, on peut voir que son rôle de grand frère, il le joue bien avec l'équipe qui est dirigée par Daniel Renault. C'est peut-être pas le gars le plus talentueux, mais le cœur gros comme l'aréna. Puis les joueurs des Cataractes se sentent un petit peu plus grand avec lui dans l'alignement des Cataractes.
Effectivement, il a changé la donne et je pense qu'il remplit très bien son mandat maintenant. Souvent, on lui reprochait toutes sortes d'affaires, dont l'indiscipline. Je pense que c'est un élément qui est, jusqu'à présent, en tout cas, réglé avec les Cataractes.
Oui.
Il ne fait pas trop de niaiseries.
Oui, mais ça reste un joueur qui... Et ça, j'aime pas le dire, Marc-André, mais je pense qu'il est marqué par les officiels.
Oui.
Parce que des gestes qui sont commis sur lui, qu'il le serait sur d'autres joueurs qui seraient appelés par les officiels. J'aime pas dire ça. Pourquoi? Parce que j'aime pas critiquer les arbitres. Ce sont des êtres humains. Mm-hmm. Mais dans le cas de Michael Robidoux, je pense que c'est un joueur qui est marqué.
Ben ouais, veux, veux pas. Écoute, quand le gars a une histoire comme la sienne, tu regardes un peu plus souvent dans sa direction, comme dans n'importe quel, appelons-le comme ça, récidiviste des autres sphères de la vie. Ceci étant, le calendrier des adversaires des Cataractes permettra peut-être aux Shawinigans de gagner un peu de terrain.
Écoute, il reste 17 matchs à jouer d'ici la fin de la saison, à la fois pour les Foreurs de Val-d'Or, pour les Cataractes et pour les Sea Dogs de Saint-Jean. Je regarde le calendrier des Sea Dogs dans les prochains jours, puis écoute, ce ne sera pas facile pour la troupe de Josh Dixon. Pourquoi? Parce que si on dit que les Cataractes, d'ici la fin du calendrier, affrontent souvent les Huskies de Rouyn-Noranda et les Vultures de Drummondville, bien, on regarde la prochaine semaine des Sea Dogs de Saint-Jean, puis écoute, ce ne sera pas évident. Ils ont d'ici... pas d'ici mercredi, je me corrige. Entre samedi et mercredi prochain, c'est 5 jours, ils ont 4 matchs.
Et ben,
alors, il y a juste lundi qu'ils ne jouent pas. Ils ne jouent pas ni vendredi, ni lundi. Par contre, samedi et dimanche, c'est à domicile et ce ne sera pas contre des adversaires faciles, Charlottetown et Moncton. Mardi et mercredi, sur la route à Halifax et à Charlottetown. Alors, c'est ça le calendrier de la prochaine semaine pour les Sea Dogs de Saint-Jean. S'ils veulent s'approcher des Cataractes, ben, ils sont mieux de se lever de bonne heure parce qu'ils ne l'auront pas nécessairement facile. Par contre, Si on regarde le calendrier des Foreurs de Val-d'Or qui, eux, ont 7 points d'avance sur les Cataractes,
oui.
C'est plus facile en fin de semaine pour les Foreurs. C'est sur la route. En fait, ce jeudi contre les Tigres à Victoriaville, demain vendredi contre le Phoenix à Sherbrooke et ils terminent ça dimanche du côté de Gatineau. Alors bref, si les Cataractes souhaitent s'approcher des Foreurs de Val-d'Or, ça risque pas d'être très, très facile en fin de semaine.
On va essayer de consolider l'avance sur les Sea Dogs.
Ben, avant de commencer à songer à peut-être rattraper la 15e position... Ouais. On va solidifier la saison. Ben, tu vas dire qu'en gagnant, on va faire les deux en même temps, une pierre d'un coup. Mais concentrons-nous sur chacun des matchs du côté des Cataractes.
Claude, merci.
Oui, les deux matchs de la Classique sur nos ondes, 19h15 vendredi soir. Et notez bien l'heure, samedi, c'est à 14h45 que débutera l'émission d'avant-match. Alors, on sera à Saint-Tite avec beaucoup de plaisir avec le collègue Steve Turcotte.
Merci beaucoup, Claude. Merci aux gens qui ont écouté ce podcast.
Bonne semaine.